Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Ludivine Bontigny.
Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation.
Mais je vous en prie, bienvenue sur France Inter. Vous êtes historienne, spécialiste d'histoire sociale, histoire du travail, des luttes sociales, auteur, autrice, je ne sais pas ce que vous préférez, de plusieurs livres sur mai 68, la Commune de Paris, l'histoire de la jeunesse, mais aussi l'histoire des Champs-Élysées, des livres d'histoire qui sont imposants, fournis, sur lesquels on reviendra au cours de cette émission. Mais on va dire d'abord un mot de ce tout petit ouvrage que vous publiez au Seuil dans la collection Libelle, L'ensauvagement du capital. C'est un titre qui claque, Ludivine Bontigny, et qui mérite évidemment quelques explications, parce que ensauvagement, c'est un terme qu'a priori on n'associe pas à capital.
Non, parce que en effet, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé du côté de la droite, de l'extrême droite, en parlant supposément de l'ensauvagement des quartiers populaires, des jeunes, des banlieues. Et ce terme m'insupportait vraiment parce que je trouve qu'il est profondément raciste, évidemment. Et j'ai décidé de revenir à ce qu'en disait Aimé Césaire dans un texte magnifique, un texte de 1950. Lui employait ce mot d'ensauvagement, mais il décrivait par là la colonisation évidemment faite par les Européens, par les États européens, les États conquérants, et il disait que la colonisation décivilise le colonisateur, que la colonisation, par sa brutalité, ses spoliations, ses pillages, ses viols, ses massacres, eh bien, brutalise non pas seulement les populations, mais d'abord celui qui les commet, et donc il employait ce terme d'ensauvagement. Mais d'ensauvagement du continent, et ce n'était pas du tout les continents colonisés, mais bel et bien le continent européen sous sa plume. Voilà, l'ensauvagement au sens d'une violence qui s'abat sur le colonisateur lui-même à partir du moment où il pratique une telle violence.
Et du coup, vous faites le lien entre colonialisme et capitalisme.
Oui, bien sûr, parce que le colonialisme et le capitalisme sont concomitants, ils sont contemporains. Le capitalisme, voilà, c'est un système qui n'a aucune morale, qui n'a aucune éthique, qui a une matrice et un principe qui est celui de l'accumulation. Voilà, accumulation du capital, faire du plus sans cesse, hein, valoriser la valeur, faire du profit. Et donc ça signifie eh bien s'étendre à toutes les sphères à la fois du vivant. On le sait bien aujourd'hui, on pourra peut-être y revenir à propos de la situation sanitaire, parce que si on en est arrivé là aussi, c'est parce qu'il y a toutes sortes d'épidémies et de maladies assez spécifiques à notre temps qui émergent, ce qu'on peut appeler le capitalocène, hein, le temps où le capitalisme devient un facteur justement de saccage du vivant. Donc voilà, il y a cette dimension qui me semble justement propice à être caractérisée comme un ensauvagement, parce qu'il y a une violence, qui est une violence faite contre les humains en termes d'exploitation et faite contre le vivant en termes de spoliation et de saccage.
À l'origine de ce livre, écrivez-vous, il y a des visages, des noms et des vies. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien ?
Oui, alors le livre s'ouvre sur une scène qui se passe loin d'ici, mais qui nous concerne au plus haut point. Elle se passe au Ghana, à Accra, dans la banlieue d'Accra. Et ce sont de jeunes enfants qui marchent dans des décharges où l'on trouve toutes sortes de rebuts de nos ordinateurs et qui en meurent. En fait, marchent dans ces décharges pour essayer de trouver du laiton, de l'étain, etc. Et qui en meurent parce que ils inhalent des dioxines, des acides bromhydriques, des déchets d'arsenic, etc. Et pour moi, c'est l'aboutissement justement de ce productivisme sans vergogne et qui permet de suivre le circuit depuis les mines du Kivu où on a ces mineurs qui ne sont même pas des mineurs mais des creuseurs qui vont permettre d'extraire les minerais qui nous permettent ensuite d'avoir ces tablettes, ces ordinateurs, ces téléphones, etc. Et dans des conditions de travail qui sont quasiment inhumaines. Donc ça, ce sont des vies. Et donc Djaba, ce jeune garçon qui a 11 ans et qui vit à Accra, au Ghana. Et puis beaucoup plus près de nous, je pensais vraiment en écrivant ce livre à plusieurs figures de personnes qui ont choisi de mettre fin à leur jour. Je pense à Jamal Shahar, hein, qui était ce chômeur qui s'est immolé par le feu feu devant un pôle emploi. Je pense à Paula da Silva, qui était une postière, qui, la suite d'un burn-out face au management vraiment extrêmement violent et de plus en plus documenté de la Poste, a décidé de se suicider. Je pense aussi à Yannick Sansonetti, qui était un employé de Lidl et qui s'est pendu dans la chambre froide du magasin dans lequel il travaillait, parce que les conditions de travail, ce qu'on exigeait de lui, c'est-à-dire le travail de 3 personnes, en fait, n'était plus tenable. Donc, c'est en pensant à ces personnes que j'ai voulu écrire cet ouvrage, en effet.
C'est vrai que c'est un petit peu la somme de tout ce qui vous met en colère, ce livre, Ludivine Montigny. La liste est longue, vous avez donné quelques exemples. Moi, j'en cite d'autres. Les réfugiés qui dorment dans le froid et la boue à Calais. Le maire de Riace en Calabre, condamné pour incitation à l'immigration clandestine, pour avoir accueilli des réfugiés dans sa commune. Vous citez la fraude aux dividendes, l'optimisation fiscale, les superyachts, l'obsolescence programmée. Enfin bref, tout ce qui vous met en colère. Alors, pour voir si j'ai bien compris ce dont vous parlez, on va rediffuser un reportage qui a été réalisé par Steven Gouaillet, un reportage qui va vous parler, j'en suis sûr, à vous la fille de postier, reportage auprès des travailleurs sans papiers qui depuis 2 mois tiennent un piquet de grève devant l'agence Chronopost d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Ces travailleurs sans papiers demandent leur régularisation, ils dénoncent au passage leurs conditions de travail, une histoire qui se répète.
Un peu de charbon pour entretenir la flamme qui réchauffe l'un des barnums bâchés devant le portail de Chronopost. Autour du feu, Aboubakar Dembélé, intérimaire pendant plus d'un an et demi dans l'entreprise, avec des nuits de travail de seulement 3 ou 4 heures et même parfois moins.
Pour venir même à lundi, pour travailler 1 heure, moi je venais à 5h45 et finir à 6h45. Faire 2 heures de trajet pour 1 heure de temps. On doit tourner comme des machines.
Certains portent des colis avec de gros problèmes de dos sans pouvoir s'arrêter.
Un jeune de 28 ans, de 35 ans, qui se balade avec des ceintures au dos, c'est-à-dire le dos est déjà craqué. Il va se mettre à la maladie comment ? La sécurité sociale ne nous reconnaît pas.
Grâce à des papiers d'identité empruntés ou achetés, les sans-papiers sont arrivés ici via des agences d'intérim du groupe de Richebourg, avec moins de garanties que les autres. Christian Schveyer, du collectif des travailleurs sans-papiers.
Un contrat d'intérim, un patron n'a pas le droit de l'arrêter. Pour les sans-papiers, ils s'en foutent, ils le font. Demain, tu viens pas. Qu'est-ce que fait la personne ? Rien, elle peut rien faire.
Difficile aussi de trouver un interlocuteur, explique Jean-Louis Marziani, secrétaire départemental adjoint du syndicat solidaire.
De Richebourg, je dois dire, moi, je les connais pas. Et la Poste, alors encore moins. Tout le monde connaît parfaitement le système et tout le monde se couvre.
Aboubakar Dembélé et ses collègues entendent bien tenir le piquet de grève jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à leur régularisation.
C'est un exemple d'ensauvagement du capital, Ludivine Montigny ?
Oui, je vous remercie de passer ce reportage parce qu'il est symptomatique de la vraie violence, je pense, qui traverse nos sociétés et qui est trop souvent invisibilisée. C'est une violence sociale. Alors là, dans le cas des travailleurs sans papier, c'est évidemment une sorte d'exploitation maximale d'une non-reconnaissance absolue, d'une absence de droit. Et moi, en écoutant ces personnes, je pense à ce beau mot qu'on a beaucoup employé dans les rassemblements de soutien, justement, et dans les luttes des sans-papiers, et notamment quand ils et elles décident de faire grève, et ça suppose énormément de courage, et une force et beaucoup de dignité, c'est « d'ailleurs, nous sommes d'ici ». Voilà. Et je n'arrive même pas à comprendre comment on pourrait stigmatiser ces personnes en essayant de diviser les gens, alors que les intérêts sont communs et que on a d'un côté ces conditions salariales qui sont vraiment catastrophiques et de l'autre évidemment ce que nous révèle parmi tant d'autres révélations les Pandora Papers par exemple, c'est une aberration monstrueuse.
Et en même temps, Ludivine Montigny, on est tous complices de ce système parce que vous disiez tout à l'heure ces enfants qui ramassent des produits toxiques en Afrique, produits utilisés pour nos téléphones portables, on les achète ces téléphones portables, Chronopost, on utilise Chronopost, etc. On est dans la boucle.
Parce que en fait, nous n'avons aucune possibilité dans le cadre du système capitaliste de décider de nos conditions de travail, des conditions de production, de nos besoins, des choix que l'on fait. En fait, je pense vraiment que le capitalisme, il n'est pas compatible avec une démocratie véritable, au sens où on pourrait délibérer, décider de ce que nous décidons justement, de ce que nous voulons faire.
On peut le réguler quand même. On peut le réguler, le capitalisme.
Alors, Moi, je suis assez sceptique quant à cette idée, mais je pense en effet que c'est important qu'il y ait des projets, des programmes qui en parlent et qui se disent, voilà, peut-être qu'on peut avoir des réformes qui mettent à distance cette expansion du capital et de la marchandise généralisée qui contamine jusqu'à nos rêves, jusqu'à nos désirs avec, voilà, c'est quelques 600 milliards de dépenses publicitaires chaque année. Mais pour ma part, je pense que la violence du capital, parce que en fait, il y a une guerre qu'ils mènent. Les capitalistes eux-mêmes se mènent une guerre liée à la compétition, à la concurrence généralisée. Hein. Ce n'est pas du tout une question de morale ou de méchanceté, certainement pas.
C'est la loi du marché.
Voilà, c'est la loi du marché. Et je pense que dès que l'on touche d'une manière plus ou moins subversive à cette logique, à ce qui est sa matrice, alors cette violence se déploie. Il suffit de voir, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, on a envoyé des bulldozers pour détruire des cabanes qui avaient été patiemment et avec beaucoup d'amour du vivant bâti simplement pour essayer de vivre autrement que dans une logique marchande.
Et on pourrait vous rétorquer qu'il y avait eu un référendum pour la construction de cet aéroport.
Je pourrais vous rétorquer que les conditions même en général d'organisation des référendums échappent globalement à ce que je considère comme une démocratie véritable où les gens s'assemblent pour délibérer et ensuite décider.
Alors, on va parler de la démocratie dans un instant, mais on va d'abord passer à l'actualité de la semaine. Voici un petit résumé grâce à ce mix mis en onde par Anne-Cécile Perrin. À la une cette semaine, le nucléaire, le prix de l'énergie, la présidentielle et donc gilets jaunes et anti-vax, anti-pass pardon, qui reprennent du service avec ce qu'ils ont baptisé comme au Canada les convois de la liberté.
Le monde entier se réveille pour effacer toutes ses obligations tyranniques. Et je pèse mes mots.
Il a suffi de l'exemple canadien pour que les gilets jaunes et les antipasses reprennent du service.
Toujours l'essence trop chère. En plus de ça, ils nous mettent un pass vaccinal qui ne sert strictement à rien.
C'est plus une crise sanitaire, c'est une crise politique.
Le tout à 2 mois de la présidentielle, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
On est lucide, parfaitement conscient qu'il y a une lassitude vis-à-vis de cette épidémie, vis-à-vis de mesures qui continuent à s'appliquer. Et je redis que dès que nous pourrons, évidemment que nous les allégerons.
Bénéfice record pour le groupe Total Énergie, 14 milliards d'euros en 2021. Dans ces conditions et vu les prix à la pompe, difficile de ne pas faire un geste pour les consommateurs.
On va leur faire un chèque de 100 euros, tous les clients de Total Énergie, 200 000 clients qui sont en situation de précarité énergétique.
Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné.
Et puis, deuxième mesure, les stations-service Total Énergie dans les zones rurales, ils ont une remise de 5 euros.
Évidemment, c'est mieux que rien, mais c'est clairement insuffisant au regard des profits incroyables qui ont été réalisés.
Le député insoumis, Adrien Quatennens.
C'est le plus gros bénéfice jamais réalisé par une entreprise française.
Le profit des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Alors dimanche, en meeting à Marseille, le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, a lancé un nouveau concept pour faire écho à celui du chef de l'État.
Qui coûte cher ? C'est sa théorie du ruissellement.
Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Rendre le pouvoir d'achat aux Français.
La veille, en meeting à Reims, Marine Le Pen avait fait vibrer la corde sensible.
Maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi.
Elle évoque l'attentat contre le domicile familial quand elle était petite, puis elle en arrive à ses enfants.
Et puis je suis devenue maman, vite, d'une famille nombreuse, vite, 3 enfants en moins d'un an.
J'ai trouvé ça plutôt sincère, voilà, de sa part.
Mais certains ont préféré aller écouter Éric Zemmour à Lille.
On s'en va sur Zemmour, c'est normal. Lui, il va gagner. Mais elle gagnera jamais. On a rien contre Marine, hein. Au contraire, hein, on l'aime encore.
Éric Zemmour, lui aussi, a tenté de faire pleurer dans les chaumières.
J'ai connu à 10, 12 ans les huissiers qui frappent à la porte.
Éric Zemmour qui recycle un vieux slogan.
Oui, travailler plus pour gagner plus était un excellent principe.
Le plagiat est manifeste.
Donc je suis contente que M. Zemmour vienne copier mes propositions. Les électeurs préféreront l'original à la copie.
Valérie Pécresse cernée sur sa droite et sur sa gauche. Cette semaine, Éric Woerth a rejoint le président du Quoi qu'il en coûte, dont il n'a pas toujours dit du bien.
Je pense qu'il y a une supercherie Macron.
Bon, ça c'était avant.
Macron, il dit jamais qu'il est de gauche, mais enfin, il est entouré d'experts de gauche, de fonctionnaires de gauche, la plupart des politiques sont de gauche, bon bref, il est de gauche.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'ailleurs, cette semaine, EDF a annoncé le rachat d'une partie de la branche énergie d'Alstom, cédée à General Electric à l'époque, où un certain Macron Emmanuel était à Bercy. Il faut dire que le président veut poursuivre le programme nucléaire.
Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France.
Ô grande dame des antinucléaires.
C'est totalement aberrant. Les 6 EPR qu'il veut construire, on n'a pas envie que ça pète.
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France en compagnie de l'historienne Ludivine Bantini ce soir. Petite réaction à quelque chose de ce qu'on
entend. Oh, il y aurait tellement de choses, Mais déjà, je suis stupéfaite quand j'entends Éric Woerth parler d'un entourage de Macron qui serait de gauche.
C'était il y a un petit moment qu'il a dit ça.
Oui, mais je veux dire, en fait, ça montre à quel point parfois les mots n'ont plus aucun sens. Ils sont complètement vidés de leur substance. Je dirais qu'ils sont énervés au sens strict. On leur a enlevé les nerfs. Bon, ça ne veut plus rien dire. Après, je suis aussi frappée par ce qu'on a entendu sur cette manière, par exemple, qu'a Marine Le Pen de parler d'elle presque en faisant pleurer dans les chaumières. Je pense qu'on a un vrai problème de toute façon, mais lié aux institutions de la Ve République qui nous conduisent à devoir à ce point personnaliser la chose politique. Et dans
c'était
tout
quand
ce
même
qu'on
une
a
première
entendu,
pour elle. Hein.
Oui, mais justement, là en ce moment, c'est particulièrement le cas de son côté, son enfance compliquée, etc. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de l'exemple de Marine Le Pen, bon, qui est particulièrement saillant, parce que, évidemment, je pense que c'est très cynique, mais quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que ça dénote un problème structurel et institutionnel, parce qu'on est obligé, dans ce cadre, de s'en remettre à une personne, en fait. Et que, donc, je ne les mets évidemment pas du tout sur le même plan, que les choses soient très claires, mais que, Roussel en vienne à faire cette petite, ce trait d'humour sur le roussellement et non pas le ruissellement. Mais voilà, on en est là, dans cette personnalisation exacerbée qui pèse énormément sur la chose politique, parce qu'elle déforme le politique. Combien, par exemple, vont se dire, je suis d'accord finalement avec le programme de tel candidat, mais, lui, je ne peux pas, voilà, il est trop agressif. C'est pas possible, c'est pas là qu'est la chose politique, et qu'on entende ces candidats plutôt parler d'eux et d'elles que du fond. C'est déjà un vrai problème démocratique, me semble-t-il.
Alors, les gilets jaunes qui reprennent du service, Ludivine Bantini, je suis sûre que ça ne va pas vous laisser indifférente. Cela dit, ils sont avec les antipasses, et les convois sont en route pour Paris, on vient de l'entendre. Vous comprenez cette espèce de drôle de convergence des luttes, là ?
Alors, je ne parlerai pas de convergence des luttes à ce sujet, mais de toute façon, moi, je ne m'estime pas légitime ni compétente pour porter d'ores et déjà une caractérisation sur ce qui est en train de se passer, parce que c'est très hétérogène, c'est très complexe. Évidemment qu'il y a une part d'extrême droite, très clairement. Il y a une part de complotisme, c'est évident. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont une immense sincérité sur la question, justement, de la démocratie, sur la question, évidemment, des libertés publiques, mais tout particulièrement parce que, dans cette crise sanitaire, on a beaucoup manqué de transparence en termes médical, puisque en fait c'est souvent le président de la République qui nous a annoncé à 20h quelles étaient les mesures, avec un conseil de défense qui devait rester justement dans une certaine mesure assez secret quant à ses délibérations. On aurait besoin pour la démocratie qu'il y ait bien davantage d'explications publiques, etc. Bon, ça c'est une première chose. Et ensuite, bon, il y a évidemment cette question du pass, parce que on mesure sans cesse d'avoir l'arbitraire qu'il représente, d'abord parce que il a causé la perte d'emploi de beaucoup de personnes.
Il a obligé des gens à se faire vacciner et ça a évité à un certain nombre de gens de finir en réanimation.
Alors, c'est pas tant, mais justement, ce qui est tout à fait arbitraire en tout cas dans le pass, c'est que comme on le sait maintenant très très bien, c'est que on peut être vacciné et contaminé, on peut ne pas être vacciné et ne pas contaminer. Donc par exemple dans un restaurant, enfin bien tout sûr. Le monde a déjà fait la démonstration, mais je le redis quand même, c'est que dans un restaurant, il peut y avoir des gens qui ont leur passe, mais qui vont contaminer leurs voisins, alors que d'autres n'ont pas le droit. Alors,
une incitation à la vaccination.
Aussi, par exemple, les bibliothèques municipales, moi, ça me choque vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a des bibliothécaires, je pense par exemple aux bibliothécaires de Grenoble, qui se sont vraiment mobilisés parce que, estimant que leur rôle n'était pas de discriminer les usagers et les usagères, d'un côté, et puis de l'autre, que justement, ça creuse encore des inégalités, alors même que, par exemple, on le sait aussi, qu'il y a je crois, hein, 40% des personnes non vaccinées qui ne le sont pas, non pas du fait de leur volonté ou de leur opposition au vaccin, mais parce qu'elles n'y ont pas accès pour des raisons diverses. Et en outre, voilà, c'est vrai que ça crée des discriminations incroyables, alors que du point de vue sanitaire, ça ne se justifie pas. Dans une salle de cinéma, tout le monde a un pass, mais il y a plein de gens qui peuvent être porteur du virus et donc contaminer, encore une fois, les autres spectatrices et spectateurs.
C'était surtout une incitation à la vaccination.
On sait bien qu'à ce moment-là, il y a eu, justement, c'était pour le moins hypocrite, voire cynique, de ne pas déclarer l'obligation vaccinale. Et là, il y a eu une discrimination que les personnes, les premiers concernés, ressentent vraiment comme une atteinte aux libertés publiques, aux libertés individuelles.
On en arrive, Ludivine Bantigny, à cet autre livre que vous avez publié avec Hugo Paletta dans la collection Petite Encyclopédie Critique chez Textuel, un livre intitulé « Face à la menace fasciste » et ce sous-titre « Sortir de l'autoritarisme ». Qu'est-ce que vous avez voulu nous expliquer que le fascisme ne s'installe pas d'un seul coup, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place progressivement, ce que vous appelez la fascisation, c'est ça ?
Oui, la première chose, c'est que je n'aurais jamais imaginé écrire un tel livre avec un tel titre, Face à la menace fasciste, il y a 2 ou 3 ans. Comme historienne, j'estimais que finalement le fascisme avait caractérisé une période bien déterminée de l'histoire, tout en sachant évidemment que, comme beaucoup l'ont dit, et notamment un Orwell, et notamment un Brecht, le fascisme peut revenir tout en ne s'appelant pas fasciste, tout en ne se désignant pas comme tel, mais en étant quand même du fascisme. Le fascisme peut revenir sans avoir besoin de chemise noire ou de chemise brune. Ça, j'en avais conscience. Mais je ne m'imaginais pas qu'en fait, le danger pouvait être aussi contemporain, en fait. La deuxième chose, c'est que, justement, on ne prend pas le mot fascisme à la légère. Hein. C'est la première phrase de l'ouvrage, parce qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, ça y est, c'est le fascisme, un tel est fasciste, etc., parmi les gouvernants. Voilà, si c'était le cas, je ne pourrais pas en parler, nous ne pourrions pas en parler, nous le savons très bien, le régime fasciste, c'est une manière d'éliminer systématiquement les oppositions. C'est un rejet de la démocratie. C'est une violence exacerbée, etc. Donc, on pourrait démultiplier les critères du fascisme. Dans le fascisme, il y a aussi beaucoup l'idée d'éliminer des oppositions du côté du mouvement social. Hein, le fascisme, historiquement, a visé d'abord à mettre un terme au mouvement ouvrier organisé, aux grèves qui avaient lieu notamment dans l'Italie des 2 années rouges. À 1919-1920.
Mais vous voyez une montée, vous, de tout ce qui est autoritaire.
Oui, c'est-à-dire, alors déjà, je pense que, alors c'est pas du tout une question de fascisme ici, mais je pense qu'on vit dans un régime, en effet, qui est caractérisé par son autoritarisme. C'est-à-dire que, on reprend là Gramsci, hein, on cite pas non plus 10 000 auteurs, mais Gramsci est intéressant parce que il parle d'une crise de consentement du pouvoir, en fait. Quand le pouvoir, une crise d'hégémonie, quand le pouvoir ne peut plus véritablement asseoir justement sa puissance par le consentement. Et que de lors, il a de plus en plus besoin d'avoir recours soit à un état d'exception, donc là on a vu un état d'urgence généralisé au point que même des proches d'Emmanuel Macron, des juristes, des avocats, je pense à François Sureau par exemple, qui a évoqué la démocrature, hein, qui estime qu'on est vraiment de plus en plus dans des mesures liberticides. Voilà, ce sont des traits d'autoritarisme, on pourrait le dire à propos aussi de la place singulière qu'occupent les forces de l'ordre, quand elle manifeste. D'ailleurs, je me souviens d'une photographie prise ici, à la Maison de la Radio, avec des policiers en armes. En effet, qui avaient encerclé la Maison de la Radio. Je pense que c'était une intimidation à l'égard de la presse, notamment du service public de la radio. Je pense aussi, bien sûr, à ces manifestations de policiers devant l'Assemblée nationale, disant que leur problème principal, c'était la justice, intimidant aussi, dans une certaine mesure, les élus, les parlementaires. Bon, en fait, voilà, on pourrait démultiplier les exemples de la question de l'autoritarisme, notamment avec ce fait que l'état de droit, voilà, il est de plus en plus mis en cause, et encore une fois, de nombreux juristes, des magistrats aussi le reconnaissent. Et autre chose encore, dans cette fascisation, c'est que là, on a désormais un déversoir vraiment fasciste. Moi, je pense que Éric Zemmour est Voilà, une personnalité qui a des traits vraiment fascisants, très clairement, et qui a micro ouvert et caméra ouverte en permanence. Et ça, c'est très, très dangereux, quels que soient les calculs politiques qui sont à l'œuvre derrière cette médiatisation.
Alors, on va voir justement ce qu'il en est du côté des idées des Français. On passe à la chronique de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
Vincent Martini, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à Polytechnique. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler du baromètre de la confiance politique, une enquête publiée par le Centre de recherche politique de Sciences Po qui vient de paraître. Et on ne peut pas dire que cette confiance soit au zénith.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Claire. Enfin, attention, il ne s'agit pas d'un sondage, mais d'une enquête scientifique menée par le CEVIPOF à Sciences Po auprès de 10 000 personnes dans toute la France et dont les questions ont été conçues par une équipe de chercheurs. Ces résultats sont publiés tous les ans depuis 2009 et ils nous informent sur le degré de confiance des Français dans la politique, dans les institutions, mais aussi dans leur rapport aux autres.
Et alors concrètement, quels sont les indicateurs qui mettent en lumière cette crise de confiance ?
Le regard sur la politique d'abord, qui demeure négatif pour 70% des interrogés et qui s'exprime par de la lassitude, de la morosité ou de la méfiance, un sentiment qui progresse fortement de 14 points par rapport à l'année dernière. Plus net encore, 77% des Français affirment que les hommes politiques ne se préoccupent pas d'eux. Et enfin, pour deux tiers d'entre eux, le personnel politique est corrompu. On lui reproche massivement de faire passer ses intérêts propres avant l'intérêt général. Globalement, la confiance demeure donc en France nettement en dessous de nos voisins européens.
Et ce tableau s'assombrit encore lorsqu'on observe les attitudes vis-à-vis de l'ouverture aux autres et notamment des étrangers.
Absolument, le raidissement sur les questions d'immigration et sur l'islam est notable. Deux tiers des interrogés affirment qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est 14 points de plus qu'à la fin des années 2000. 61% que l'islam est une menace pour la République et seulement un Français sur deux pense que l'immigration est une source d'enrichissement culturel. Cette attitude de repli, elle se double d'une demande d'autorité, vous en parliez tout à l'heure. 68% des enquêtés nous disent que notre pays a besoin d'une bonne dose d'ordre et d'autorité, et même plus d'un tiers d'entre eux qu'il vaudrait mieux avoir un homme fort à la tête du pays qui n'aurait pas à se préoccuper du Parlement ni des électeurs.
Alors, quelle conclusion tirez-vous de ce panorama ?
Eh bien d'abord que le clivage gauche-droite n'est pas mort, mais au contraire marche à plein sur ses enjeux. Les électeurs de gauche sont ainsi beaucoup moins nombreux que ceux de droite et d'extrême droite à partager ces conclusions. Ensuite, qu'on assiste à une bascule sur ces questions chez les électeurs de la droite traditionnelle. Les sympathisants LR sont presque parfaitement alignés sur l'extrême droite sur toutes ces questions. Cependant, pour nuancer un peu cet état des lieux, on observe des signes d'ouverture. Par exemple, une majorité de nos concitoyens défend la lutte contre les discriminations à l'encontre des femmes, des minorités ethnoculturelles ou sexuelles, ou, pas encore, soutient la PMA. Cette ambivalence entre ouverture et repli est à l'œuvre depuis longtemps dans la société française. Dans ces Vipov, justement, on en parlait déjà en 2007. On parlait d'un double mouvement, liberté privée, ordre public, pour qualifier l'opinion. Une tolérance croissante pour les modes de vie individuels, doublée d'une forte demande d'autorité sur les questions régaliennes. Mais je voudrais conclure cette chronique sur une note positive qui en surprendra peut-être certains. Un point de consensus émerge de cette étude du Vipov, c'est la confiance dans les services publics. Nos concitoyens plébiscitent à une écrasante majorité les hôpitaux, mais aussi la sécurité sociale, l'école et même la police ou l'armée. Et c'est pas sur France Inter, radio de service public, qu'on boudera le plaisir de cette information.
Non, mais ça, c'est sûr que France Inter, on est très content de faire partie du service public. Merci Vincent Martini. On vous lit demain sur l'application de l'Hebdo Le 1. Ludivine Bantini, vous l'écoutiez attentivement. Vous avez même pris des notes.
Oui. Alors, dites-nous tout. C'était très riche. Bon, la première chose qui me frappe et surtout qui m'inquiète énormément, mais nous sommes nombreux et nombreux à être très, très inquiets à ce sujet. Je pense notamment à ce qu'a dit récemment Serge Klarsfeld en disant que ce qui est en train de s'opérer autour des musulmans est très comparable à ce qui s'opérait dans l'antisémitisme qui date essentiellement de la fin du 19e siècle et du coup dans les années 30. Hein, quand on entend comme ça qu'il y a une sorte de fabrication de la thématique d'une part des immigrés et d'autre part de l'islam, on a une surenchère de thèmes qui étaient pendant très longtemps des thèmes d'extrême droite, une surenchère à qui va le mieux récupérer et envahir l'espace médiatique, politique et public de ces thématiques. Quand un Gérald Darmanin s'adresse à Marine Le Pen en lui disant qu'elle est trop molle sur ces questions, c'est d'une gravité extrêmement dangereuse, me semble-t-il. Ça, c'est la première chose que m'inspire cette étude. La deuxième chose, c'est justement voilà, l'aspiration supposée à un pouvoir fort, mais en fait, justement, ça pour moi, c'est un trait aussi qui peut mener au fascisme. Encore une fois, le fascisme n'appartient pas forcément aux oubliettes de l'histoire. C'est toujours possible. Et le pouvoir fort, l'homme providentiel, on n'a plus besoin de parlement, etc. Enfin, à force d'avoir ce déversoir, justement, de ces personnalités qui se présentent soit comme Jupiter par-dessus tout, soit comme celui qui va mener la Reconquista, que ça envahisse, là encore, nos esprits, évidemment que ça suscite un danger. Troisième chose, c'est évidemment les services publics. Et on a parlé de la crise sanitaire, mais il faudrait redire qu'avant la crise sanitaire, les personnels hospitaliers lançaient des SOS tracés avec les lumières des fenêtres des hôpitaux. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la dernière chose que m'inspire ce qu'a dit Vincent Martini, c'est que quand on nous dit que la politique, ça rend morose, il y a de la lassitude, moi j'ai l'impression que quand la chose politique est déplacée, c'est-à-dire qu'on considère pas que la politique, ça serait ça, voilà, la corruption, les institutions, la déconnexion entre les responsables politiques et la population, mais quand c'est des assemblées, des gens qui se retrouvent dans des réunions, dans des manifestations, dans des rassemblements, dans des lieux où simplement on peut parler du bien commun, c'est ça la politique. Et alors là, mais tout de suite, ça crée de l'enthousiasme, le sentiment de reprendre possession en fait de sa vie collective et individuelle.
Et on sait que c'est ça qui vous passionne notamment dans vos études. On va en parler dans la troisième partie de cette émission dans quelques instants.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, où sont les commerces, les glucides et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, splendide. Tant de sauvés grâce à vous qui sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste, un don rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur.
Gaëtan Roussel, Alain Souchon, Sans sommeil, un disque sélectionné par Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Toujours en compagnie de l'historienne Ludivine Bantini. Alors, arrivée à ce stade de l'émission, on aborde toujours le parcours de l'invité, Ludivine Bantini. Et ben, vous nous y aidez, parce que dans les premières pages de votre livre, L'ensauvagement du capital, vous parlez de vous, de vos origines, de vos parents, de votre père qui a été facteur toute sa vie, par tous les temps, écrivez-vous, 6 jours sur 7, et pour un salaire maigre comme lui. Et votre maman, elle était au chèque postal.
Oui, c'est ça. Mais en fait, je ne voulais pas en parler spécialement pour parler de moi, mais parce que je suis frappée, et là je rendais compte d'une discussion avec un documentariste familier des plateaux de télévision qui crachait sur les cheminots, sur les fonctionnaires, sur les agents des services publics en disant que c'était des rentiers, etc. Et donc, ça m'avait tellement choquée, et puis c'est tellement banal en même temps, ce discrédit jeté de manière générale sur, voilà, sur encore une fois, les fonctionnaires, par exemple, que je voulais évoquer ça, parce que, bien sûr, que j'ai vu mon père travailler, justement, on parlait de services publics, vraiment dans le sens que les personnes sont des usagers, pas des clients à qui on va chercher à toute force à faire acheter je ne sais quel produit, parce que c'est aussi comme ça que la Poste a évolué. Donc, voilà, ce milieu-là, ce milieu... De la modestie, de l'humilité et en même temps d'un grand attachement au travail et au service public, à une forme de générosité non rentable, non marchande, c'est quelque chose qui est très important pour la suite, pour les choix de sujets que j'ai pu faire.
Vous avez
historienne.
Donc grandi dans un milieu relativement populaire, Ludivine Bantigny, à Lille, dans la banlieue de Lille. La passion de l'histoire, elle est venue comment?
Je vais vous dire toute petite déjà, mais ça serait un peu banal. Non, mais c'est vrai que bon, c'est après, c'est des histoires en effet de grands-pères, de grands-pères de morts et ensuite de rapports aux morts, un peu comme des fantômes qui viennent hanter. L'histoire est très hantée par les spectres, hein, bon. Et il y a beaucoup de, alors je ne m'y compare évidemment pas, mais d'historiens qui ont réfléchi à cette histoire des spectres, hein, Jules Michelet, le rapport aux morts, le rapport à l'histoire comme tombeau. Et moi, je me souviens d'une scène qui s'est beaucoup répétée dans mon enfance, où on allait dans un petit cimetière, dans la banlieue de Lille, en effet. Et puis, il y avait une espèce de petite cahute, une espèce de petite baraque avec des photographies abîmées, rongées par la rouille et par le temps de soldats morts pendant la Grande Guerre. Et ça me fascinait complètement. Et donc, voilà, pour moi, l'histoire, c'est un rapport aux morts vivants, aux morts à qui on redonne la vie par le biais de la recherche et de l'écriture et du ressurgissement de l'archive.
Il y a aussi une prof qui a été très importante dans votre parcours.
Ça me fait plaisir que vous en parliez.
C'est très fréquent hein, que oui, le rôle des enseignants dans la vie des historiens.
Voilà,
c'est une réalité.
Absolument. Et il se trouve que c'est une de mes meilleures amies aujourd'hui, alors que pourtant notre lien remonte quasiment, oui, à un autre siècle. C'était ma professeure d'histoire-géographie au collège. Et elle faisait une thèse, une thèse d'histoire sociale, d'histoire populaire, en fait. Et elle m'avait emmenée aux archives départementales de Lille et j'avais trouvé que c'était magnifique. Voilà, ce travail presque de... Alors, j'avais pas ce mot-là quand j'avais 14 ans, mais de résurrection finalement, de résurrection laïque des morts par ce travail archivistique qui nous fait connaître la vie des morts.
Voilà comment vous avez découvert l'histoire et sans doute eu envie d'en faire. Vous avez fait vos études jusqu'au bac à Lille et puis après, Ludivine Bantigny, vous êtes arrivée à Henri IV à Paris. Alors ça, c'est le grand saut. Et je voudrais vous citer parce que vous avez raconté ça dans un livre intitulé L'œuvre du temps, mémoire, histoire, engagement, paru aux éditions La Sorbonne. Les études m'ont conduite à 18 ans dans ce qu'il est convenu d'appeler un grand lycée à Paris, ou plutôt j'y ai été jetée comme une boule noire dans un jeu de billard. Le choc des cultures, forcément, quand on arrive comme ça. Vous dites les héritiers qui avaient eu... Vous avez côtoyé les héritiers qui avaient eu le Louvre pour jardin d'enfants.
Oui, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est les questions culturelles et bon, voilà, Pierre Bourdieu on a beaucoup parlé, hein, les héritiers justement dans cet ouvrage qu'il a signé. Bon, j'avais été bonne élève, j'avais eu cette chance parce que j'avais eu la chance aussi et le bonheur d'avoir un grand-père qui avait eu le temps de beaucoup s'occuper de la lecture pour moi, d'apprendre l'apprentissage de la lecture, etc. Et du coup, j'avais été bonne élève. Et finalement, par une rencontre complètement fortuite, un professeur d'histoire en classe préparatoire, voilà, il m'a dit « Envoie un dossier à Henri IV ». Et donc j'ai fait ça de manière complètement inconsciente parce que je ne savais pas du tout ce qu'était cet univers. Et même le mot « hippocagne », c'est-à-dire une classe préparatoire littéraire, m'était absolument mystérieux et inconnu. Et en effet, mon dossier a été retenu, mais les premiers mois ont été terribles. Vraiment, je voulais partir, je me souviens que je voulais être... voilà, revenir chez mes parents et être caissière, parce que alors ça c'est les conditions d'exploitation maximales, hein, justement. Mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque et je trouvais que c'était trop difficile, voilà, d'être aussi. Je trouvais que j'étais vraiment illégitime. Bon, hein, c'est assez classique en fait. Hein, dans
toujours
les
est-il
de classe.
Que vous avez continué. Il y a eu normal sup, thèse et agrégation d'histoire. Vous êtes devenue enseignante à l'université, maîtresse de conférence à l'université de Rouen. Vous y avez passé une vingtaine d'années, Ludivine Montigny. Et puis l'an dernier, vous avez décidé d'aller enseigner au lycée, de quitter l'université. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu d'abord, évidemment, le choc de la crise sanitaire et de ce que j'ai vu, et on a été beaucoup à le voir, comme une forme de maltraitance à l'égard des étudiants et étudiantes. En même temps, donc, ils étaient dans une grande détresse, hein, matérielle, financière, psychique, voilà, amoureux, sentimental, familial. Bon, et c'est toujours le cas, hein, quand on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui doivent avoir recours à des bourses alimentaires, voilà, des formes de solidarité pour subsister. Et en fait, le milieu universitaire, il y a énormément d'enseignants-chercheurs qui ont une conscience professionnelle chevillée au corps. Mais il y a une institution qui pousse vraiment à la compétition, justement. De plus en plus, on nous demande d'être compétitif, d'être rentable, et donc on est davantage des chercheurs que des enseignants, parfois. Enfin, en tout cas, c'est ce que le courant institutionnel voudrait faire de nous. Et de plus en plus de précarité. Vraiment, à l'université, c'est terrible. Il y a beaucoup de jeunes enseignants, et de plus en plus longtemps, d'ailleurs, qui travaillent dans des conditions extrêmement précaires. Et enfin, la dernière chose, c'est que l'université, c'est quand même un univers assez anonyme. Et là, en lycée, vraiment bien connaître les élèves et sentir qu'on travaille vraiment
donc
avec
vous êtes dans un lycée à Paris.
Eux. Oui, voilà.
Et vous êtes heureuse.
Je suis très heureuse malgré le fait que le ministre de l'Éducation nationale ne nous aide pas beaucoup à être heureux dans notre métier, mais c'est ça qui est plus fort finalement. C'est qu'on peut toujours aimer le métier même quand il est abîmé par des formes de déstructuration, des contre-réformes bien davantage que des réformes au sens émancipateur du terme.
Vous vous rendez compte que vous êtes une exception quand même, hein, d'avoir fait le chemin dans ce sens-là. Vous allez peut-être susciter des vocations auprès
en fait,
de...
On pense d'un point de vue purement administratif que ce n'est pas possible parce qu'on est radié quand on devient maître de conférence, etc. Mais en fait, si, c'est possible, c'est la fonction publique. Et je trouve que c'est beau de pouvoir circuler. Enfin, c'est bienfaisant d'avoir des exploits. Voilà, enfin, j'en fais pas du tout un modèle ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais en l'occurrence, j'ai adoré ce métier. J'ai vraiment adoré ce métier auprès des étudiants et d'avoir la chance de pouvoir aussi faire de la recherche. Ça faisait partie de mon statut. J'étais enseignante, chercheuse. Mais être vraiment enseignante dans le primaire ou dans le secondaire, c'est un métier un peu différent. Et on se consacre encore davantage à la formation et aussi à l'écoute en l'occurrence des adolescents. Et moi, ils sont passionnants, je trouve.
Et puis on vous retrouve, Ludivine Montigny, le dimanche, hein, sur.
Oui, je fais partie de la petite équipe qu'a réunie Patrick Boucheron pour son émission Histoire 2, avec de belles discussions d'histoire et assez engagées aussi parfois.
Voilà, et puis elle. Donc, L'Ensauvagement, on aurait pu parler de plein d'autres choses, de tous vos autres livres, notamment celui sur les Champs-Élysées qui est passionnant. L'Ensauvagement du capital au seuil et face à la menaxe fasciste, c'est chez Textuel. Un très grand merci
c'est
à vous.
Merci beaucoup.